Fun for You avec Parthenamut sur Fun Radio.
Salut à tous, bienvenue dans le podcast Fun for You. Comme chaque semaine, on se retrouve sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast pour votre rendez-vous dédié à la santé, au bien-être et à la vie intime. Fun Radio. Et mon invité aujourd'hui dans Fun for You s'appelle Élise Verstraten. Bonjour Élise.
Bonjour Simon.
Quel plaisir de te recevoir une nouvelle fois dans cette émission. Alors toi, tu es graphothérapeute, coach scolaire, formatrice, conférencière. Ta mission, c'est de permettre à chacun d'accéder à la réussite. Et c'est important d'en parler aujourd'hui puisque dans quelques semaines, les examens vont commencer. Le CEB, le CE1D aussi pour les élèves de deuxième secondaire. Et donc, on va vous donner tout à l'heure d'ailleurs des petits tips pour vous aider à préparer les examens qui arrivent donc dans les prochaines semaines. Avant ça, je voulais qu'on reparle de ton travail. Toi, tu es donc coach scolaire. C'est quoi exactement ton boulot en tant que coach scolaire?
Alors, j'accompagne des enfants, des adolescents, des jeunes adultes à apprendre et à trouver du plaisir, donner du sens aux apprentissages. Et l'idée, c'est de créer un espèce de tiroir à outils dans le cerveau avec des outils qu'on crée en séance et puis que l'ado va aller tester en dehors des séances pour savoir les outils qu'il garde et les outils qu'il enlève. Et on continue de créer des outils. L'idée, après, c'est qu'il puisse savoir quel outil il doit utiliser à quel moment.
C'est quoi le profil, finalement, de tous ces élèves qui viennent te voir?
Alors, c'est des profils différents. Je travaille avec des multidis, où je travaille avec des enfants qui ont parfois un retard au niveau des apprentissages. Il y en a aussi qui sont en échec scolaire, voire en décrochage, ou des enfants qui ont très très bien réussi jusqu'à un certain moment, mais qui n'ont pas de méthode de travail.
Justement, tu parles de méthode de travail. Est-ce que tu adaptes justement ces méthodes en fonction des éventuels troubles que peuvent avoir les enfants?
Oui, vu qu'on est tous différents. Donc en fait, il y a un espèce de petit test où on teste le profil d'apprentissage de l'enfant. Et l'idée, en fait, c'est que quand on est un bon thérapeute ou professeur, c'est qu'on rentre par les forces de l'enfant pas par ses forces à soi. Donc il y a plusieurs profils d'apprentissage et on tient compte de ça. Ce qui fait aussi que je personnalise mon suivi, c'est que j'appelle tous les intervenants qui gravitent autour de l'enfant ou de l'ado. Ça me permet d'avoir une vue plus globale, vu que moi je ne connais pas l'enfant dans sa globalité scolaire, vu que je vais pas en classe, sauf quand il y a des réunions, là je suis présente, mais sinon dans le quotidien de l'enfant, j'y suis pas. Et je trouve la force du suivi, c'est que je laisse le choix aux enfants et aux adolescents de venir ou pas. Donc en fait, je leur demande s'ils sont d'accord, qu'ils comprennent le sens et l'utilité du suivi en coaching. Mais une fois qu'ils me disent oui, du coup, ils sont vraiment plus réceptifs et on peut bien avancer.
Ça dure combien de temps, plus ou moins, un suivi avec un élève?
C'est très variable. Ça va. Donc en coaching, il me faut quelques séances pour bien voir le profil de l'ado, lui apprendre à faire des synthèses, des plannings, etc. Et après, c'est à la carte. Donc, j'ai des ados qui viennent une fois par mois, j'en ai qui viennent une fois toutes les deux semaines, j'en ai qui viennent juste veille des examens ou d'une grosse présentation orale, mais c'est vraiment à la carte.
Et justement, tu vois une évolution chez les élèves, comment tu la ressens cette évolution? C'est quoi les différences dans leur façon de travailler, etc., qui sont mises en place?
C'est qu'ils segmentent plus les tâches et qu'ils s'y prennent pas la veille.
Donc, c'est important, on parlait des examens il y a quelques minutes. Ça aussi, c'est important de ne pas attendre la veille avant de s'y mettre, mais on en reparlera un peu plus tard tout à l'heure.
Oui, exactement. C'est ce que je dis toujours, plein de petits objectifs souris plutôt que le gros objectif éléphant. Déjà, je le vois parce que les points suivent.
Ouais.
Et puis, je vois dans l'attitude face au travail de l'enfant ou de l'ado, ça change vraiment.
Justement, autre chose qui est ultra important, c'est le travail à la maison en plus du travail à l'école. Comment ça se passe, ça, concrètement?
Alors, concrètement, il n'y a pas de secret. C'est la répétition qui fait que les choses s'automatisent. Donc, il vaut mieux revoir un petit peu tous les jours que beaucoup en une fois. Surtout que quand il y a un suivi, on donne des objectifs à atteindre. Ça va dépendre aussi du niveau de l'enfant et de son protocole d'aménagement raisonnable, s'il en a. Mais on dit que chez les tout-petits de première, deuxième, il n'y a pas de devoir. Il y a juste de la lecture et pouvoir présenter quelque chose oralement. En troisième, quatrième primaire, 20 minutes de devoir par jour. Cinquième, sixième, 30. Et puis après, en secondaire, ça dépend du projet d'établissement. Les ados que je coach, ils ont comme objectif de bosser 10 heures en dehors des heures de cours, répartis sur les 7 jours de la semaine comme ils le souhaitent, pour qu'on puisse s'assurer à une réussite.
Donc c'est important d'y aller aussi en termes de devoirs, un petit peu crescendo, tu le disais, pas de devoirs en début de primaire, et puis on monte assez progressivement.
Oui.
Les parents, justement, dans cette situation, ils disent quoi? Ils sont un peu perdus ou ils comprennent bien la situation?
Ceux qui arrivent en cabinet, ils sont très sensibilisés à la question, du coup ils sont très réceptifs. Moi, les parents, ils font partie intégrante de ma séance, c'est-à-dire qu'ils finissent toutes les séances avec nous. Ça me permet aussi de leur montrer ce qu'il faudra mettre en place après et de faire les petits checks tout au long de la semaine ou du mois ou des deux semaines qui vont passer en fonction du prochain rendez-vous.
Et justement, c'est quoi le rôle des parents dans l'apprentissage de l'enfant, dans la scolarité de l'enfant ?
Alors, je crois que le premier rôle d'un parent, c'est de garder de la confiance, de la communication à la maison et à un moment donné, de déléguer si ça n'est plus le cas. Je sais que c'est pas toujours facile, mais je pense que ça va vraiment être porteur pour la suite. Respecter le rythme de l'enfant, ne pas comparer les enfants, ritualiser les choses. Ça va être important de mettre une espèce de routine de travail parce que c'est souvent des enfants qui n'ont pas cette routine de travail.
Ouais. Il faut un peu leur imposer peut-être.
Ben oui, peut-être pas directement comme ça, mais il faut en fait leur faire comprendre que c'est cette routine qui va leur permettre de réussir. Donc pas imposer en bloc, mais vraiment les mettre dans cette démarche d'apprentissage-là. Et puis bah les écrans, il y a pas photo, faut supprimer, mais réduire le temps d'écran, surtout pour les examens, ça va avoir des conséquences bénéfiques.
Alors si tu pouvais changer une seule chose, toi dans l'approche scolaire, ce serait laquelle ?
Il me faudrait plus qu'une chose.
Deux choses, allez.
Déjà, ce que je ferais, c'est que je réduirais les écarts entre les niveaux.
Ouais.
Tous les niveaux confondus, donc c'est-à-dire entre les maternelles et les primaires secondaires, les études sup ou l'UNIF. C'est toujours des très gros décalages et j'ai quand même beaucoup d'enfants qui sont pas prêts. Là, vraiment, plutôt les ados que je coach de première secondaire ou de première UNIF, études sup, voilà. Et puis, on n'a pas de cours d'apprendre à apprendre, ni pour les profs, ni pour les enfants. Et donc, je pense qu'avec quelques heures de méthodo pure et dure, ça pourrait vraiment changer les choses.
Je sais que moi, dans mon école, en première secondaire, j'avais une heure par semaine de méthode de travail où on nous apprenait certaines méthodes de travail, etc. Mais je sais que c'était un cas isolé, je sais que toutes les écoles ne mettent pas ça en place, mais je trouve que c'était une très bonne chose, donc ça pourrait être, pourquoi pas, mis en place dans plusieurs écoles.
Il y a des écoles qui le font, mais alors c'est l'école qui décide de décharger, entre guillemets, certaines heures de cours de profs, et alors ils sont référents en méthodo. Mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire.
Oui, bien sûr.
Et je trouve que ça devrait être pour tout le monde, en fait.
Alors, on en parlait tout à l'heure. Dans quelques semaines, on va rentrer dans une période importante pour les étudiants. La période des examens, la période du CEB pour certains, du CE1D pour les étudiants du secondaire, de deuxième secondaire. Comment on peut se préparer à cette période? Parce que on le dit souvent, les examens, ils se préparent à partir du premier jour d'école, à partir du 1er septembre. Même maintenant, c'est la rentrée se fait un peu plus tôt, même dans le mois d'août. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. On se sent un peu dépourvu, d'ailleurs, quand on arrive à cette période d'examen. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner pour notamment synthétiser les cours, etc. Ouais. C'est des choses qui sont importantes. C'est quoi tes conseils à toi ?
Mes conseils, c'est qu'effectivement, quand tu dis qu'il faut démarrer dès le début de la rentrée, c'est tout à fait ça. Le conseil numéro un, c'est qu'en fait, si on synthétise ses cours dès le début de l'année, on ne se retrouve pas avec une charge de travail monumentale veille des examens. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une farde de synthèse. À chaque fois qu'on a fini un chapitre, un sous-chapitre, on le synthétise. Et du coup, veille des examens, on a une petite farde à étudier et pas des gros dossiers. Et c'est vraiment cette routine, en fait, donc dans les 10 heures de travail que les ados placent dans leur horaire, dans ces 10 heures sont compris les synthèses.
Ouais.
Les devoirs, les leçons, mais les synthèses. Et l'idée, c'est que comme on a dit que c'était la révision qui faisait que ça allait s'automatiser, ça va permettre aux connexions neuronales de se connecter plus souvent et que ça puisse basculer dans la mémoire à long terme. Donc ça, c'est pour tout ce qui est synthèse. Il y a aussi tout ce qui est carte mentale.
Ouais.
Qui est vraiment très chouette aussi pour tout ce qui est synthèse, avec des images, des couleurs, des flèches.
Il y a un petit côté un peu gamification aussi dans cet apprentissage. On se retrouve pas avec une feuille complète à étudier. C'est un petit peu lourd. On sait jamais trop par où commencer. C'est vrai que mettre en place des cartes mentales, etc. Et déjà même les faire, c'est aussi déjà apprendre un petit peu la matière.
Bien sûr. Et puis il y a une façon d'apprendre aussi tout ça. Et ce qui convient à l'un convient pas à l'autre. Et ce qui convient à l'un dans tel cours ne conviendra pas à cette même personne dans un autre cours. Donc c'est ça, cette fameuse boîte à outils, c'est d'aller chercher le bon outil au bon moment. Il y a aussi tout ce qui est flashcards, donc c'est des petites cartes qu'on peut faire avec des petites définitions, des formules, des trucs qu'on doit vraiment retenir par cœur et qu'on trimballe partout.
Donc on
attend son bus, on sort ces petites flashcards et puis on les relit et ça fait de nouveau de la révision. Et puis il y a quand même dans beaucoup de cours maintenant les QR codes. Moi j'ai beaucoup d'ados en cabinet, je leur dis t'as été voir ce que c'était ? Ah non. Et en fait il y a vraiment une banque de données auditives ou visuelles qui peut vraiment être intéressante au niveau niveau des synthèses aussi.
Ok, d'accord, c'est important. Donc si vous avez des QR codes dans vos cours, n'hésitez pas à aller les scanner et un petit peu même avant la veille de l'examen. C'est quoi les autres conseils que tu pourrais donner ?
Alors pour la prise de notes, il y a tout ce qui est sketchnoting. Donc c'est de nouveau une prise de notes qui est visuelle avec des couleurs, des dessins, des flèches. Ça peut très bien fonctionner pour certains. Et il y a la méthode Cornell aussi qui est une méthode de prise de notes où la feuille est divisée en quatre parties. Le haut, c'est tout ce qui est de quel cours on parle, dans quel chapitre on est.
Okay.
Au milieu, c'est toutes les notes de cours. À gauche, dans la marge de gauche qui du coup est plus large, c'est je note vraiment les trucs importants, la définition, la formule de ce que je dois connaître. Et en bas de page, en fait, l'ado peut déjà prendre l'habitude de taper 2-3 phrases de résumé à la fin de son cours.
Ok.
Donc en fait, ça prend 2 minutes. C'est juste, je resynthétise ma pensée et en général, ces synthèses-là, elles sont bien faites aussi. Et puis pour les examens, mettre du fluo sur les mots importants. Est-ce qu'on te demande de compléter, relier, entourer? Enfin voilà, déjà au niveau du vocabulaire des consignes, il y a déjà des gens qui perdent des points parce qu'ils répondent pas à la consigne qui est demandée. Pour la petite histoire, j'ai fait, quand j'étais encore instite, j'ai fait un test à mes élèves.
Ouais.
Et la première consigne, c'était « tu dois d'abord lire tout le test jusqu'au bout ». Et la dernière phrase du test, c'était « si tu as lu jusqu'ici, tu ne dois pas faire le test, ramène-moi ta feuille et tu auras 10 sur 10 ». Et il y a un seul enfant sur toute ma classe qui m'a ramené la feuille. Et les autres, après, quand ils m'ont ramené leur feuille, j'étais là « c'est pas bon, c'est pas bon ». Et en fait, je leur ai dit, bon, je l'ai pas coté vraiment ce test-là, mais je leur ai dit, en fait, c'est ça aussi, parce qu'après, quand vous allez signer un contrat quelque part, c'est toujours la petite phrase du dessous.
Bien sûr.
Qu'on n'a pas lu.
Une petite clause en gras où on se dit, même quand on accepte quelque chose sur Internet, etc., des fois, on se dit, c'est trop long, je vais pas lire, etc., mais c'est toujours important de le faire.
Donc voilà. Donc en tout cas, ces élèves-là, ils vont lire jusqu'au bout les petites clauses qu'ils ont sur leur contrat.
Ils se font pas avoir deux fois.
Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux encore donner comme conseil? Vérifier les cotations.
Ouais.
Parce qu'en fait, moi, je leur dis toujours, tu passes quand tu comprends pas pour pas perdre du temps. Mais après, je leur dis, va quand même voir les questions que t'as passées si c'est pas des questions à beaucoup de points.
Ouais.
Parce que si elle a beaucoup de points, ça vaut la peine de quand même passer un petit peu du temps dessus. Et je leur dis, si c'est pas coté en négatif, et c'est quand même très rare que ce soit coté en négatif, je dis, rempli.
Oui, oui, oui. Tu dans risques
le,
rien.
Dans le meilleur des cas, tu gagnes des points. Donc, c'est pas mal. Aussi, l'idée, c'est que quand on arrive à un test ou à un examen, on a droit à une feuille de brouillon. On pourrait aussi déposer d'abord les formules, les trucs qu'on a peur d'oublier. C'est pas une perte de temps, en fait. C'est du gain de temps pour après. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner aussi. Des petits exercices de respiration pour gérer son stress. Hein. Ils se mettent une pression, mais d'enfer. Moi, je leur dis quand même, on n'est pas en train de jouer notre vie, surtout si les points de l'année sont bons.
Ouais, ouais,
c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir une petite baisse de régime, mais voilà. Donc ça, j'essaye de les rassurer sur ça. Et alors aussi de se relire, mais pas se relire. Enfin, en fait, il y en a beaucoup qui lisent ce qu'ils pensent qu'ils ont écrit, mais pas ce qu'ils ont écrit vraiment. Donc je leur dis, lis ce que t'as écrit vraiment.
Vraiment relire attentivement, quoi.
Ouais. Et quitte à faire plusieurs relectures, faire une fois la relecture pour l'orthographe, une fois pour les accords. Enfin là, c'est en français, mais ça peut marcher pour tous les cours, quoi.
Eh ben franchement, c'est super important la relecture. D'autant plus que souvent, quand on a terminé de répondre à l'examen, on se dit, au moins c'est fait. Hop, 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 je rentre ma feuille, mais c'est des fois des points bêtement perdus.
Oui, surtout que c'est du temps qu'ils ont droit.
Ouais,
donc,
ouais.
Pourquoi pas le prendre, en fait? Et alors, apprendre dans son profil d'apprentissage. Parfois, ils apprennent, mais pas du tout dans leur profil d'apprentissage. Du coup, ça marche pas. Donc, voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Élise. Je pense que, s'il y a des parents, s'il y a des étudiants qui nous ont écoutés, ils ont normalement toutes les clés en main pour, réussir leurs examens. On vous souhaite bonne, comme on dit, on va quand même pas le dire à la radio. Courage à vous pour cette période qui est pas la meilleure des périodes de l'année, c'est pas le plus chouette, les révisions, etc. Il faut passer par là, c'est important. Merci en tout cas, Élise, d'être venue nous voir ici sur Fun Radio. C'est un réel plaisir de te recevoir une fois de plus.
Merci.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.